Radio Grand Ciel présente Art et Histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois Amélie Battard, responsable de la communication à la commanderie d'Arville. Amélie Battard, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors tout d'abord, la commanderie d'Arville, eh bien, où est-elle située ?
Alors la commanderie d'Arville, elle est située dans le Loir-et-Cher, à la frontière de l'Eure-et-Loire.
C'est-à-dire à combien de kilomètres de Nogent-le-Rotrou à peu près ?
Vous en venez, je crois. Voilà.
Donc combien de temps ?
Alors on est situé à une demi-heure de Nogent-le-Rotrou, au sud de Nogent-le-Rotrou, en passant par Autons du Perche et la base Augouet. On est à la frontière du parc naturel régional du Perche.
Donc 45 kilomètres.
Oh non, moins que ça, non, une trentaine de kilomètres, 35 kilomètres maximum, je crois.
Voilà, donc 35 kilomètres de Nogent-le-Rotrou, je le dis bien fort parce que si vous ne connaissez pas, voilà un lieu idéal pour passer une belle journée avec des enfants ou sans enfants, mais les enfants y trouvent aussi beaucoup de plaisir. Alors, bien sûr, il faut commencer par l'histoire. C'est une histoire extrêmement intéressante parce que on part du XIIe siècle.
Totalement. Date, période de fondation du site. L'ordre du Temple est reconnu officiellement en 1129 par le pape Honorius II au Concile de Troyes. En fait, c'est le premier ordre religieux et militaire à être reconnu par le pape. Et à partir de là, les dons vont pleuvoir vers ce nouvel ordre constitué. Et donc des dons en argent, des dons en nature. Et à partir de là, l'ordre du Temple va se constituer tout un réseau de commanderies dans l'Europe de l'Ouest. Donc des commanderies, on en trouvait au nord de l'Espagne, en Angleterre, sur le Royaume de France, en Italie et en Europe centrale. Et la commanderie d'Arville a fait partie de ces commanderies qui ont été bâties par l'ordre du Temple. Malheureusement, on n'a pas de date précise de construction. On est certain que la commanderie existait en 1169. Par contre, nous avons la mention d'un Guillaume d'Arville, qui est le témoin d'un acte, qui est passé d'ailleurs à l'abbaye Saint-Denis, à Nogent-le-Rotrou. Or, on n'a pas de mention de l'existence du village d'Arville avant. Il est fort possible que, comme beaucoup d'établissements, comme cela s'est passé en fait avec les châteaux ou d'autres abbayes, le village se soit développé à partir de la création de la commanderie. Voilà. Mais cette mention là d'un Guillaume d'Arville, c'est une preuve trop mince pour nous permettre à ce jour de dire que la commanderie a été fondée dès les années 1130. Par contre, à une quinzaine de kilomètres du site, à côté de Mondoubleau, au sud d'Arville, une commanderie templière existait déjà en 1134. Elle était à ce point constituée qu'elle était capable d'accueillir le seigneur de Mondoubleau, qui était également vicomte de Châteaudun, ainsi que ses hommes.
Donc, il y a un ordre des templiers.
Alors voilà, donc l'ordre des Templiers, c'est une histoire vraiment extrêmement particulière. L'ordre du Temple naît à la suite de la première croisade lancée par le pape Urbain II en 1095. Le pape Urbain II, au lendemain d'un concile, le concile de Clermont, qui se tient en Auvergne au mois de novembre 1095, donc le lendemain de ce concile, le 27 novembre, le pape Urbain II va s'adresser aux chevaliers, aux laïcs, leur demandant, entre autres choses, de partir pour aller... donc là, je reprends bien entendu ces mots, libérer la ville de Jérusalem. Et alors, c'est déjà une chose assez extraordinaire que le pape demande même à des combattants de partir à plusieurs milliers de kilomètres quand on sait les conditions de voyage de l'époque. Ces chevaliers ne sont pas partis par bateau, ils sont partis à pied. Et ce ne sont pas que des chevaliers qui sont partis, en fait, c'est le tout un chacun, c'est-à-dire des paysans, des bourgeois, qui sont partis pour aller conquérir la ville de Jérusalem. C'est ce qu'on appellera bien plus tard, plusieurs siècles après, la première croisade. Ils vont conquérir la ville de Jérusalem en 1099, mais en fait, ils sont allés au-delà du souhait exprimé par le pape Urbain II. C'est qu'en fait, c'est toute une bande de territoire qu'on va appeler les États latins d'Orient ou les États francs, une bande de territoire qui est comprise entre le désert situé à l'est et la mer Méditerranée située à l'ouest. Alors, ces territoires territoires, ils sont constitués du royaume de Jérusalem qui forme la pointe sud. Au-dessus, vous avez le comté de Tripoli. Encore au nord, la principauté d'Antioche. Enfin, tout en haut, tout au nord, le comté d'Édesse. Et ces territoires, eh bien, il va s'agir de les défendre. Contre qui ? Eh bien, contre Turcs et Égyptiens, à qui ont été pris ces territoires et qui vont tout naturellement chercher à les récupérer. Le problème de ces territoires, c'est que les croisés, une fois Jérusalem délivrée, que vont-ils faire pour la plupart ? Eh bien, ils repartent en Europe. Donc ces territoires qui très vite vont se trouver menacés sont vides, vides d'hommes. Évidemment, une partie des croisés restent et s'y établissent.
Oui, certains restent.
Certains restent, mais les rois de Jérusalem, Baudouin Ier, Baudouin II, s'inquiètent très vite, dès le début du XIIe siècle, du manque d'hommes qu'ils ont sur leur royaume. Et à peu près à la même époque, au début du XIIe siècle, vous avez un groupe de chevaliers qui forment une sorte de confrérie et qui vont se mettre au service de l'église du Saint-Sépulcre, donc l'église qui avait été bâtie au-dessus du tombeau du Christ. Et ils vont se rassembler à partir de 1115 autour d'une figure charismatique, un chevalier champenois nouvellement arrivé à Jérusalem en 1114, Hugues de Pince. Et en 1120, ils vont aller voir le roi de Jérusalem, Baudouin II, pour leur offrir leur service. L'idée, c'est de défendre ces territoires nouvellement acquis par les croisés, donc les États latins d'Orient. Évidemment, de défendre le saint du saint pour eux, qui est Jérusalem et le tombeau du Christ. Oui. En même temps, de sécuriser les routes qui mènent au pèlerinage du tombeau du Christ à Jérusalem, puisque ces routes étaient loin d'être sûres pour les pèlerins une fois qu'ils arrivaient en Orient, une fois qu'ils débarquaient en Orient. Mais ces chevaliers, donc là, c'est à la suite de la première croisade, on a encore un événement assez inattendu, extraordinaire, c'est que ces chevaliers, donc ce sont des chevaliers, des combattants, ils vont souhaiter en même temps mener une vie religieuse à part entière. Alors là, on n'est pas très sûr de la date de la constitution de ce nouvel ordre non reconnu par le pape, parce que c'est 1119-1120, on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'en 1120, ils vont voir le roi de Jérusalem. Et donc, ils veulent concilier ces deux vies, c'est-à-dire à mener une vie de religieux à part entière, tout en étant des chevaliers. Donc, prononcer, comme le faisaient les moines, leurs trois vœux, pauvreté, chasteté et obéissance à la règle de l'ordre du temple. Parfois, on les appelle les moines chevaliers. Ce n'était pas proprement parler des moines, car ils ne se destinaient pas à une vie contemplative. Or, c'est un petit peu comme mélanger l'eau et l'huile. C'est-à-dire que, grosso modo, depuis l'an 1000, la société chrétienne est divisée entre trois ordres. Il y a les plus nombreux, ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient. Ceux qui prient ont l'interdiction formelle de porter l'épée. Donc ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau et d'inattendu au Moyen-Âge. Et de façon très intelligente, parce que donc cet ordre n'est pas reconnu par le pape, Hugues de Pince, en 1127, accompagné de plusieurs templiers, eh bien, va revenir en Europe. Ils vont en fait se diviser et ils vont aller voir pendant deux années les différentes cours seigneuriales et ils vont, entre autres, expliquer leur bien fondé, le bien fondé de leur position, la possibilité, eh bien, d'assumer ces deux statuts de religieux et de militaire. Et on pourrait dire aujourd'hui qu'ils ont fait acte de lobbying. Ils vont réussir et obtenir au Concile de Troyes, au début de l'année 1129, la reconnaissance du pape Honorius II. À partir de là, le premier ordre religieux et militaire est né. Il sera suivi de deux autres ordres qui vont se militariser à l'exemple du temple. Vous avez d'abord l'ordre de l'hôpital, qui est d'abord un ordre religieux, qui est né à Jérusalem, comme l'ordre du temple, autour de l'hôpital de Jérusalem. C'est un ordre plutôt tourné autour de la charité, et qui va se militariser au milieu du XIIe siècle. Et au XIIe siècle, donc, il y a un autre ordre religieux militaire qui naît, les chevaliers teutoniques. Voilà.
Oui. Alors, je crois que vous nous avez très bien conté cette histoire. Et maintenant, je crois que c'est beaucoup plus clair dans tous les esprits. Alors, bien sûr, il y en a qui vont venir s'installer dans le Perche.
Voilà.
Et c'est à la commanderie d'Arville qu'ils vont... Alors, ils seront combien ?
Ah, alors, on pense qu'ils étaient moins d'une dizaine.
Ah oui, on a l'impression qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, oui. Parce que cette commanderie, c'est quand même assez gigantesque comme, comme bâtiment.
Voilà. Alors, une grande partie du site a été rebâtie au cours du XVe siècle. Oui. Il est tout à fait possible que le site actuel épouse les dimensions qu'il avait au moment de la fondation et de sa construction par l'ordre du Temple. En témoigne un certain nombre de traces de fondations que l'on peut apercevoir dans différents bâtiments. Alors, pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi peu nombreux ? Parce qu'en fait, les commanderies, elles avaient deux rôles. Le premier, c'est que c'était des centres de recrutement de templiers. Oui. Qui, en tant que combattant, étaient envoyés combattre en Orient. Ne restaient en fait dans les commanderies que ceux qui ne combattaient pas, c'est-à-dire les frères de métier. Au sein de l'ordre, il y a trois catégories d'hommes. Il y a le frère chapelain qui s'occupe des offices dans l'église, donc ça, il a un rôle extrêmement important. Vous avez les combattants divisés entre les chevaliers templiers et les sergents d'armes. Et enfin, il y a les frères de métier qui, un peu comme les frères converses, certains ordres religieux, vont se charger de tout l'entretien, l'activité économique de la commanderie, c'est-à-dire mettre en exploitation les terres qui dépendent du site. Voilà. C'est pour ça qu'ils étaient aussi peu nombreux. Après, il faut aussi imaginer une commanderie. On pourrait plutôt parler de maison templière, parce qu'une commanderie, c'est plutôt un découpage administratif qui regroupe plusieurs maisons templières avec une maison mère. Voilà. Donc cette maison templière, il faut imaginer que comme une abbaye, c'est le siège d'un pouvoir seigneurial avec des territoires qui dépendent de cette maison et des habitants qui doivent donner un certain nombre de taxes, d'impôts qui peuvent être aussi en nature et qui pouvaient être présent sur le site par moment.
Voilà. Oui, parce que justement, les revenus vont être très importants.
Voilà. Le deuxième rôle de ces commanderies, de ces maisons templières, c'est de financer les activités militaires de l'ordre du Temple en Orient.
C'est ça.
Et cet argent, en fait, est destiné essentiellement à ça. Et on le sait, la guerre, ça coûte cher.
Voilà. Alors, on parle de revenus, mais alors, peut-être visitons la commanderie qui va nous permettre de comprendre comment ils avaient des revenus.
Alors, oui, tout à fait.
Je pense aux terres, etc.
Oui, tout à fait. Alors, malheureusement, donc, on a quelques informations sur les dépendances que possédaient les Templiers d'Arville. On sait, par exemple, qu'ils avaient des droits sur la forêt de Montmirail, qui est située aujourd'hui dans le Perche sartois. On sait qu'ils ont eu des droits sur le marché de Brou, par exemple. Mais finalement, on a assez peu d'informations et pour toute la partie autour de Mont-Doubleau, il est très difficile de départir de ce qui appartenait à la maison templière d'Arville ou la maison templière fondée à côté de Mont-Doubleau, qui a aujourd'hui donné son nom au village du Temple, le Temple près de Mont-Doubleau. La maison templière qui a été bâtie près de Mont-Doubleau a disparu, mais le village est resté.
Voilà. Oui, c'est ça.
Donc c'est assez compliqué. Par contre, on a une idée des activités qu'ils ont pu avoir sur le site. Tout d'abord, faut imaginer, on a un petit peu de mal à l'imaginer aujourd'hui, parce que c'est un site qui est entouré de champs agricoles. C'était un site de forêt, voilà. Et au XIIe siècle, les Templiers faisaient de l'élevage de vaches et de cochons qu'ils laissaient se nourrir de façon assez libre dans la forêt située autour d'Arville. Le problème, c'est que les cochons abîmaient la forêt, que le seigneur de Mont-Doubleau avait également des droits sur cette forêt, et qu'on, justement, ça nous permet de savoir que les Templiers avaient cette activité-là, parce que ils ont eu donc des problèmes avec le seigneur de Mont-Doubleau. Non, le seigneur de Mont-Doubleau, à partir de 1176, le nouveau seigneur a voulu réaffirmer ses droits sur la forêt. Voilà, et a voulu un petit peu plus précisément, écrire les droits des Templiers sur cette forêt.
Oui, parce qu'il y avait quand même peut-être 1000 hectares quand même qu'ils possédaient.
Ça, on ne sait pas. On ne sait pas quel était leur domaine.
1000 hectares, si c'est ça, ils avaient quand même des revenus.
Oui, tout à fait.
Il a fallu d'ailleurs, parce que pour pouvoir avoir des bâtiments comme ils avaient, c'est qu'ils avaient des revenus aussi.
Alors après, ce territoire, c'est un don qui a été fait à l'ordre du Temple.
Oui.
Voilà. Peut-être y a-t-il eu aussi un don en monnaie permettant aussi l'élévation de ces bâtiments.
Peut-être.
Ça, on ne sait pas. Par contre, ils ont bâti une très belle église au XIIe siècle, très grande pour une église du XIIe siècle, en pierre, qui est toujours conservée actuellement.
On va en parler tout à l'heure, mais là, vous avez choisi de nous faire écouter un morceau de cette époque.
La chanson que nous avons entendue, c'est une chanson écrite par le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion au retour de la Troisième Croisade, parce qu'il a été fait prisonnier par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. L'empereur allemand souhaitait recevoir une rançon en échange de la libération de Richard Cœur de Lion.
Je suis toujours avec Amélie Bâtard et nous évoquons la commanderie d'Arville. Alors, dans une première partie, vous avez évoqué
la fondation de la maison d'Arville, oui.
La fondation et puis les croisades. Oui. Voilà. Et donc, maintenant, j'aimerais bien que nous approchions du site d'Arville pour que nos auditeurs aient envie également de venir le visiter. Parce que il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de commanderies comme celle d'Arville. Combien y en a-t-il en France?
Alors, c'est difficile à dire, mais par exemple, sur le nord de la France, il doit rester 4 commanderies templières. Et on est véritablement l'une des commanderies templières les mieux conservées. Et on est celle qui se visite le plus facilement, puisque le site est ouvert de février à novembre. Et malheureusement, c'est bien normal, hein, certains sites n'ont pas la possibilité, certaines maisons templières n'ont pas la possibilité d'être autant ouvertes que nous. Donc effectivement, on a vraiment cette chance que ce site ait pu être conservé, bien conservé, et il est ouvert à la visite.
Voilà. Oui, il est ouvert à la visite, peut-être vous pouvez donner les heures.
Oui, tout à fait. Alors, le site a une grande amplitude d'ouverture, puisqu'il est ouvert de février à novembre, tous les jours. Voilà. Et effectivement, il est ouvert aux journées du patrimoine, avec un certain nombre d'animations, des visites guidées, un nouvel atelier qu'on a mis en place autour de l'archéologie et qui sera proposé pour les adultes et pour les enfants, donc une découverte de l'archéologie pendant une petite heure, une visite insolite du site proposée en matinée pendant lesquelles on va montrer aux visiteurs ce qu'on ne montre pas habituellement pendant nos visites guidées.
À savoir,
par exemple, ce qu'a pu laisser l'ordre des hospitaliers sur le site, à savoir par exemple les anciennes prisons qu'on ne montre pas habituellement aux visites, des anciennes inscriptions sur le site qui ne sont pas non plus évoquées pendant la visite. La visite guidée du site pour les bâtiments, elle dure une heure. C'est une visite qui est déjà riche, donc ça nous permet de réserver quelques compléments pour d'autres visites thématiques, comme par exemple on en a proposé cet été.
Voilà. Donc les journées du patrimoine, eh bien voilà un endroit magnifique pour pouvoir s'y rendre. Alors j'aimerais bien maintenant que nous revenions sur les bâtiments qu'on peut voir en arrivant à Arville.
Alors la visite, elle se découpe en deux moments. Tout d'abord, on propose la découverte du musée. Ce musée, il a été créé il y a une vingtaine d'années. Ce n'est pas un musée de collection à proprement parler, c'est un centre d'interprétation. Donc un centre d'interprétation, c'est un concept qui a une démarche inverse de celle du musée. Dans un musée, on raconte une histoire à partir des collections qui sont exposées. Dans un centre d'interprétation, on va d'abord chercher à interpréter une histoire. Pour notre musée, c'est l'histoire des Templiers et des Croisades. Et quand on n'a pas d'objets de collection, on met des copies d'objets de façon à interpréter au mieux cette histoire. Donc dans ce musée, il y a 8 salles scénarisées qui racontent cette histoire, celle des Templiers et des Croisades. Et ensuite, dans un deuxième temps, on propose à la visite les bâtiments du site qui sont l'ancienne grange d'Imière, l'ancien pigeonnier, et bien entendu l'église bâtie par les Templiers au XIIe siècle.
Alors maintenant, rentrons et visitons d'une façon plus approfondie. Je reviens au fait de dire que les enfants peuvent venir parce que c'est aussi très bien pour les enfants qui découvrent des choses qu'ils n'imaginaient pas.
Oui, le musée notamment, en général, rencontre un certain engouement chez les enfants.
Oui.
Et puis on accompagne la visite de livrets-jeux. C'est des livrets-jeux par âge, mais qui vont de 4 à 12 ans et qui permettent une découverte ludique du site. Et on propose aussi beaucoup d'activités vis-à-vis des scolaires autour de la découverte du Moyen-Âge essentiellement et des savoir-faire. On est, je pense, là-dessus, l'un des rares sites en France à proposer autant d'activités. On a une cinquantaine d'activités proposées pour les enfants, plus les jeux que l'on propose également. Donc c'est pour les enfants qui viennent avec leur classe ou leur centre de loisirs.
Ah
donc
oui.
Ce sont des jeux qui permettent une découverte ludique du site, par exemple une chasse au trésor, par exemple les défis à la commanderie d'Arville. Et on a également des activités proposées aux groupes d'adultes, par exemple autour de l'ancien four à pain du site qui a été restauré en 2000. Je pense avoir fait le tour, mais voilà. Donc on a vraiment... je pense autour de 60 à 70 activités, donc pour les groupes, hein, je parle bien, à découvrir sur le site. Et pour les personnes donc, qui ne viennent pas ni avec leur école, leur centre de loisirs ou en groupe, on a également des activités pour les individuels qu'on propose alors pour le moment à différents temps forts de l'année. On a une fête médiévale qui est organisée depuis une douzaine d'années en juillet. On a alors
cette année, malheureusement cette année,
ouais, on avait un très beau programme d'animation qui malheureusement à partir de mi-mars a été chamboulé en raison de des conditions sanitaires, mais une grosse partie de ces animations va être reportée sur l'année 2021, donc avec des escape games, avec des Cluedo, avec des événements médiévaux. Au mois de mai l'année prochaine, on va organiser un week-end autour de l'Ordre du Temple pour célébrer la fondation de l'Ordre du Temple que j'évoquais tout à l'heure en 1120, quand les Templiers rassemblés autour du Duc de Pin sont allés voir le roi de Jérusalem, Baudouin II, voilà, pour célébrer ce moment-là. Alors, avec une année de retard, puisqu'on sera en 2021, mais pas en 2020, mais on va avoir tout un week-end autour de l'histoire de l'Ordre du Temple, avec des campements de reconstitution autour des campements templiers, des campements de reconstitution autour du Moyen-Âge sur une époque similaire à celle de l'Ordre du Temple, c'est-à-dire les 12e, 13e siècles, des animations, et puis le programme n'est pas encore bouclé. On a pas mal d'idées. Enfin, vraiment un gros temps fort l'année prochaine. Ce sera une première sur le site.
Alors, vous dites week-end, mais alors on pourra dormir aussi sur le site?
Alors,
est-ce qu'on peut prendre déjà des repas?
Des repas sur le site. Alors, il y aura peut-être l'année prochaine un banquet. Sur le site, pour le moment...
Un quoi?
Un banquet.
Ah, ouais. Ah oui,
c'est
ça,
ton projet. C'est ton projet, ouais.
Un banquet, en étant habillé au Moyen-Âge, non
Alors, si on le souhaite, bien sûr, oui. Là, on n'a pas assez de costumes à notre disposition pour en prêter ou en proposer à la location, mais si les personnes souhaitent venir costumer, c'est tout à fait possible. Donc, ce serait le projet, donc on verra après sous quelle forme on va faire ça, ce serait de proposer un banquet médiéval avec des animations médiévales. Peut-être.
Des jongleurs.
Peut-être. Il n'y a rien de finalisé encore. Tout dépend de la compagnie avec laquelle nous allons travailler.
Voilà. Oui, bien sûr.
Ouais. Puis il y aura aussi des concerts de proposer l'année prochaine.
Oui.
On avait par exemple le projet d'un concert dessiné. Donc trois musiciens présents, un artiste que certains de vos auditeurs connaissent peut-être, qui est Dominique Mention. Dominique Mention, c'est donc un aquarelliste et qui a contribué à la création de la Maison Botanique qui se trouve à Bourset, près de Mondoubleau. Et c'est un centre d'interprétation autour de la Trogne.
Un
centre d'interprétation, de conservation autour des Trognes. Donc lui va faire de l'aquarelle pendant que les musiciens joueront de la musique baroque. Donc voilà, plein de choses pour l'année prochaine.
Eh bien, maintenant, nous voudrions bien visiter, et je pense d'abord à l'église.
Oui.
Alors, faites-nous visiter l'église.
Alors, cette église, elle a une particularité,
romane.
C'est qu'elle est à un pied dans le site et en même temps Elle est tournée vers l'extérieur. Pourtant, les Templiers donc étaient des religieux, et comme les moines, ils avaient un rythme liturgique à respecter dans la journée. C'est-à-dire qu'ils avaient 7 prières à effectuer au cours d'une journée dans l'église, plus une messe quotidienne. Donc leur première prière, comme les moines, c'est la prière qu'on appelle matine, qui est effectuée à minuit. La deuxième prière, qu'on appelle prime, est effectuée à 6h du matin, puis voilà, toute la journée est rythmée par ces prières. Alors, comme ils avaient un statut un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'ils avaient des charges qui leur incombaient, qui n'incombent pas normalement aux moines, par exemple, ils pouvaient rassembler ces prières à un moment dans la journée. Donc cette église, ils s'y rendent plusieurs fois dans la journée, pourtant l'ouverture, la nef, est tournée vers l'extérieur. C'est parce que cette église, eh bien, quand elle a été construite, elle a tout de suite été destinée à accueillir les paroissiens, les villageois. Voilà. Et eux avaient une entrée qui leur permettait d'accéder directement dans le cœur de l'église qu'ils utilisaient, la nef étant utilisée par les villageois. Cette église, elle a un rôle extrêmement important pour l'ordre du temple, également parce que c'est là que sont effectués les rites d'entrée des nouveaux templiers. C'est là qu'ils prononçaient leurs 3 vœux, obéissance à la règle de l'ordre du temple, chasteté et pauvreté. Voilà, donc c'est une église très importante. Elle a été bâtie avec un matériau local que l'on trouve également dans le Perche, dans le Timrais aussi. C'est du grison. On trouve ça parfois à la base des maisons dans le Perche.
À la Perrière,
par exemple, voilà, tout à fait. Ça permet d'isoler le calcaire des remontées d'humidité. Donc c'est extrêmement pratique. Et donc cette église, elle est entièrement bâtie en grison, de même que la base du porche d'entrée qui date du XIIe siècle. Le reste ayant été rebâti au cours du XVe siècle. Donc elle a été bâtie en grison. Donc le grison, c'est une pierre extrêmement solide. C'est un conglomérat d'argile, de silex et de fer. Et le fer lui donne une couleur un peu rouille. Voilà. C'est une église romane et c'est l'église type templière, c'est-à-dire que c'est une église qui n'est constituée que d'une simple nef. Il n'y a pas de transept. Le transept qui donne leur forme de croix aux églises quand elles sont vues du ciel. Et ça, c'est l'église type bâtie par l'ordre du temple. Cette église, elle comporte extrêmement peu de sculptures, quelques voussures à l'entrée. Quand on est à l'intérieur, qu'on l'imagine dépouillée de tout le mobilier en bois, de toutes les statues qui ont pu être ajoutées au fil des siècles, elle peut paraître, l'atmosphère, une atmosphère de rigueur en fait, s'en dégage. Et ça, c'est pas un hasard, c'est un choix de l'ordre du temple. C'est-à-dire que cette église, c'est l'église templière type. L'ordre du temple nourrit énormément de relations avec un autre ordre religieux qui est en pleine émergence, à la même époque que l'ordre du temple, qui est l'ordre de Cîteaux. Et l'ordre du temple va nourrir beaucoup de relations avec cet ordre. C'est grâce à Bernard de Clairvaux, qui est l'éminent représentant de l'ordre des cisterciens au XIIe siècle. C'est grâce à son action, en fait, que l'ordre du temple va être reconnu par le pape Honorius II, Honorius II en 1129.
Donc, voilà, c'est grâce à son action.
Alors, temple templier, c'est lié à l'implantation de l'ordre du temple. C'est parce ça. Que Baudouin II, quand il va recevoir donc cette confrérie de chevaliers rassemblée autour de Duc de Pince, il va accepter le soutien de ces chevaliers, bien content, lui qui se plaint du manque de combattants dans la ville de Jérusalem, qui sait la plupart des combattants étant repartis après la première croisade. Et donc il va leur donner son palais. Son palais était installé dans la mosquée Al-Aqsa, la mosquée qui existe toujours aujourd'hui. Et lui va s'établir ailleurs, près de la tour David à Jérusalem. Il leur laisse cette mosquée, qui va devenir le siège de l'ordre du temple. On pensait que la mosquée Al-Aqsa était située à l'ancien emplacement du temple construit par Salomon, et on sait aujourd'hui que c'est faux. Et donc, ils tirent leur nom, ordre du temple, de cet emplacement.
Eh bien, je crois que nous aurons tous envie d'aller visiter Harville. Un grand merci à vous. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci beaucoup.